Métaphysique par le père Philippe, Saint Joseph, le 30 janvier 85.
Donc nous avons commencé à regarder la qualité la dernière fois. Je vous ai montré l'importance de cette étude de la qualité, comment c'était pour nous une manière d'entrer dans ce que représente un pôle qui peut aller très loin de la philosophie, par où on peut comprendre tout l'aspect de la philosophie lié à l'art, lié à l'esthétique. Une philosophie esthétisante est une philosophie de la qualité. C'est toujours quelque chose de très grand. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est quelque chose de très grand, c'est quelque chose qui est très proche de la substance, comme nous essaierons de le comprendre, qui va très loin, puisque c'est la forme, mais ça n'atteint pas l'être. La qualité dévoile l'être et la qualité cache l'être. Tout le temps, comprendre ces deux aspects. Et toute espèce de qualité manifeste l'être et en même temps le voile. C'est pour ça que si facilement on est séduit par la qualité, c'est la qualité qui nous séduit, un pouvoir de séduction prodigieuse. La qualité nous séduit, et en nous séduisant, la qualité peut nous faire découvrir l'être, mais la qualité peut nous séduire en nous enfermant dans la forme. C'est ce qu'il faut essayer de comprendre. Alors, je vous avais dit qu'il fallait d'abord regarder un tout petit peu, n'est-ce pas, une topique historique, c'est important. Ce serait énorme comme topique historique. Regardez la qualité à travers tous les philosophes. C'est très intéressant, c'est un sondage extrêmement intéressant. On ne peut pas le faire. Je crois que le premier philosophe vraiment de la qualité, c'est Platon. C'est sûr. Il semble que jusqu'à Platon, aucun terme propre n'ait été élaboré par les philosophes pour désigner la qualité. Ça, c'est très intéressant, si c'est vrai. Je dis « il semble », parce qu'il faudrait le vérifier. Vous voyez, par le mot, on thématise. C'est-à-dire, on met cette réalité devant nous pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette réalité. Alors, je crois bien qu'avant Platon, la qualité n'était pas mise comme ça en pleine lumière. C'est Platon qui introduit le terme poiétès, forgé à partir du poionti. Au point de vue philologique, c'est très intéressant. Le poiétès, forgé à partir du poionti. Donc à partir de l'interrogation, parlant du patient qui devient sentant et non point sensation, de l'agent qui devient qualifié, poionti, et non point qualité, Platon souligne peut-être cette qualité, poiotès, est-elle pour toi un nom insolite, en même temps qu'incompréhensible, dans sa généralité globale. Ça, c'est très intéressant comme passage dans le Théétète. Le poion chez Platon demeure interrogatif. Poionti. C'est intéressant. La qualité éveille notre intelligence, puisque suscite une interrogation. Alors, si c'est vrai, le texte de Platon a l'air de dire ça. C'est un texte très très beau. Si c'est vrai, vous voyez que nous touchons là le point de départ de l'interrogation. Alors ça, c'est capital, au point de vue philosophique. Et Heidegger n'aurait pas reconnu que Platon est à l'origine, Platon ou Socrate, parce qu'on ne sait jamais. Ils sont en telle communion. Qu'est-ce qu'est de Socrate dans Platon? Qu'est-ce qui est de Platon à l'état pur, on ne sait pas. Mais ce serait de montrer que Socrate, c'est vraiment l'initiateur de l'interrogation, ce que je crois. Mais ce qu'on ne souligne pas d'habitude, on dit toujours Socrate, c'est le grand philosophe de l'interrogation. C'est très vrai. Socrate, c'est le philosophe de l'interrogation. Mais il est philosophe de l'interrogation par le poiondi. C'est-à-dire par le point de vue du sens d'une réalité qualifiée. C'est la réalité qualifiée qui suscite l'interrogation. Vous voyez, ça, je crois que c'est intéressant, l'origine de l'interrogation. Alors, l'origine de l'interrogation pour Aristote, c'est l'admiration. Vous voyez, c'est pour préciser un peu. C'est l'admiration. C'est quand on est dans un état d'admiration qu'on interroge. Or, l'admiration provient de quoi? De la splendeur de la forme. Donc, de la qualité. C'est vraiment la qualité qui est source de l'admiration et de l'interrogation. Et Platon est le premier à avoir montré cela. Alors, c'est important parce que ça nous fait comprendre que d'une certaine manière, c'est la qualité qui est au point de départ de toute la philosophie. Alors, dans un ordre pédagogique, vous voyez, faisons pas entièrement un ordre pédagogique ici, hein, parce que nous essayons d'entrer dans une philosophie qui dit, dans un ordre pédagogique, il faudrait commencer par la qualité. Dans un ordre pédagogique, une philosophie qui voudrait suivre un ordre pédagogique entièrement commencerait par le point de vue de la qualité. Puisque c'est la qualité qui éveille l'intelligence et la met dans un état d'interrogation. Peut-être cette qualité, poiotès, est-elle pour toi un nom insolite? Si Platon dit ça, ça prouve que c'est pas employé. Donc, il a le sens que ce mot qu'il emploie est un mot nouveau, insolite. Poiotès, est-elle pour toi un nom insolite, en même temps qu'incompréhensible dans sa généralité globale? C'est-à-dire l'aspect abstrait. C'est pour traduire ce mot « poiotès » que Cicéron forgera le mot latin « qualitas ». N'oubliez jamais qu'il y a deux aspects. Hein, pour ceux qui s'intéressent aux mots, hein, c'est toujours intéressant, surtout dans notre monde d'aujourd'hui. Il y a le cratyle, qui est un lieu extrêmement intéressant, puisque Platon, constamment dans le cratyle, essaie de donner les étymologies et l'origine de l'étymologie. Et puis, il y a le point de vue de Cicéron, qui traduit le grec en latin. Le passage d'une langue à l'autre, on sait très bien, est toujours quelque chose de très intéressant. Le passage du latin au français suscite des émerveillements. N'est-ce pas? Alors, on voit très très bien comment, de fait, il faut être très attentif à ces différents passages. Eh bien, le mot « poiétès », Cicéron va forger donc un mot insolite. Ce qui montre bien, ça confirme que qualité, pour nous, ça va de soi, qualité, c'est bien évident. Eh bien, non. Ce n'est pas un mot primitif. C'est très très curieux. C'est un mot qui est apparu dans la philosophie, que, on peut dire, au fond, assez tardivement, parce que c'est Platon. Et avec Cicéron, Cicéron est stoïcien et puis orateur. Donc, elle forgera le mot latin qualitas en s'excusant à son tour d'utiliser ce terme inouï, transposition d'un terme grec non point courant, mais purement philosophique. Alors ça, c'est très curieux. C'est un mot, donc, forgé par les philosophes, qui va entrer dans la langue habituelle. D'habitude, les philosophes reçoivent le mot de la langue courante, et puis, ils lui donnent une signification. Le mot « ousia » est un mot beaucoup plus courant que le mot « qualité ». voyez comme c'est intéressant. Ça prouve que l'éveil philosophique s'est fait du côté de la qualité. Et donc c'est bien vrai de voir que c'est la qualité qui était au point de départ de l'éveil philosophique. Donc il y a là tout un aspect extrêmement intéressant à souligner, surtout aujourd'hui, hein, où on est très sensible à l'aspect génétique des choses. Et alors on devrait peut-être mettre ça très en lumière. Oui, c'est commencer la philosophie par la qualité. Un grand cours sur la qualité qui fait entrer en philosophie. Platon n'a pas seulement forgé le mot « poiétès », il a élaboré toute une philosophie de la qualité « vertu ». Arrêté. Dans le Cratyle, il explique à sa manière la signification du mot « arrêté ». Alors, voyez ce qui est intéressant ici. Hein, le mot « arrêté » est un mot de langue vulgaire. Le mot « poiétès » est un mot de signification philosophique. Alors, il faut passer de « arrêter » à « poiétès ». Moi, je suis en philosophie ici, je passe de « poiétès » à « arrêter ». Mais il faut faire l'ordre inverse, génétiquement. Alors, qu'est-ce que c'est que « arrêter » pour un grec, hein? Qu'est-ce que c'est que le mot « arrêter » pour un grec? Le mot « arrêter » qui a été traduit par « vertu ». Et le mot « vertu » a perdu sa signification profonde. Ce mot signifie, arrêtez, l'aisance de la marche. Quel homme vertueux, il marche bien. C'est admirable. Hein? C'est par l'aisance de la marche que vous avez commencé à comprendre un homme vertueux. C'est très très curieux. C'est très intéressant de voir ce point de vue-là. Vous voyez, si on était heideggerien, à partir de là, on forgerait toute une nouvelle conception de la vertu. C'est facile, hein, c'est facile de faire. Un homme, l'aisance de la marche, l'élégance de la marche. Voilà, l'homme vertueux, il marche bien. Ah mon petit, comme tu marches bien, tu es vertueux. Arrêtez, c'est merveilleux. Ce nom signifie d'abord l'aisance de la marche, puis le cours toujours libre de l'âme bonne. Et le passage de l'aisance de la marche, l'élégance de la marche, à l'aspect de l'âme libre. Puis le cours toujours libre de l'âme bonne. C'est ce qui coule toujours, aéreon, qui coule toujours sans gêne, sans obstacle, qui a été, semble-t-il, qualifié de ce mot. Il est juste de l'appeler aéreiten. Vous voyez, celui qui coule tout le temps. Aéreon, aéreiten, et à partir de là, arrêter. Ça, c'est vraiment de l'étymologie à la manière de Platon, extraordinaire, presque Isidore. Hein. On aura tout à fait ça. Intus legere, lire de l'intérieur. L'intelligence. Eh bien, arrêter, c'est ce qui coule bien. Ce qui a de l'aisance. Il y a quelque chose de juste, n'est-ce pas, quand on dit que la vertu implique un habitus, et qu'un habitus vous donne une souplesse. Un homme vertueux, c'est un homme souple. Tandis qu'un homme qui est gêné sur les contours, hein, il est novice de la vertu. Alors il est gêné. On sent très bien. Et il n'est pas vertueux, mais il fait des efforts. C'est extrêmement méritoire, mais ce n'est pas vertueux. Parce qu'il est trop gêné. Tandis qu'arrêter, c'est celui qui coule bien, aéreon. C'est très très joli. Sans gêne, sans obstacle, qui a été, semble-t-il, qualifié de ce nom. Il est juste de l'appeler aéreiten. Mais peut-être l'auteur veut-il dire aireten, préférable pour indiquer que cette disposition existe et préférable entre toutes. La contradiction a été le mot arrêté. Donc la contraction a été le mot arrêté. La contraction de aireten. Alors on a simplifié, ça est devenu petit mot, et c'est devenu vertu. Vous voyez comment le point de vue, c'est très curieux ça, c'est intéressant au point de vue d'ordre phénoménologique si vous voulez. Comment vous découvrez que quelqu'un est vertueux? À sa démarche, tout simplement, qui n'est pas gêné, pas guindé, à l'aisance de sa démarche. Puis, l'âme, qui coule bien, il y a une source, ça coule bien, ça coule merveilleusement. Alors, à partir de là, arrêter. Et de arrêter, on est passé à qualité. Et arrêter cache excis. Et tout y est, hein, c'est extraordinaire comme petite analyse. Hein. Vous avez ce point de vue-là. Hein. Je le reprends dans l'autre ordre pour que vous voyez bien. Vous avez donc excis, on va traduire habitus, arrêter ce qui coule toujours, donc ce qui coule toujours, à elle. Ce qui coule toujours, c'est pas le pantareil d'Héraclite, c'est très très joli, c'est ce qui coule toujours. Donc, ce qui coule toujours, c'est une source. Hein? Toujours l'étymologie, c'est une source qui coule toujours. Bon, la vertu, ça touche une source, à la différence d'un puits. Il y a des gens qui sont vertueux comme des puits. C'est juste l'inverse de la vertu. Tandis que la vertu, c'est quelque chose qui coule toujours. Et alors, à partir de là, on aura le mot qualité. Alors, c'est très intéressant. Pourquoi a-t-on inventé le mot qualité? Pourquoi on n'est pas resté uniquement. Alors, arrêter, on a traduit vertu, virtus, habitus, virtus, et si, qualité. Joue intéressant, ça, c'est, pour ceux qui s'intéressent à la philologie, c'est très intéressant de pousser ce point de vue-là. Et ça rejoint quelque chose d'intéressant, c'est que à la source de la vertu, nous voyons qu'il y a une espèce d'habitude. Parce que marcher avec aisance, ça implique une habitude, excis. Il y a des plis qui sont donnés. Nous voyons dans ce passage que Platon se sert du mot excis pour définir la vertu, en précisant qu'il s'agit de l'excis, la plus excellente. Platon, en effet, emploie le terme excis, et il est sans doute le premier à le faire, non seulement au sens d'avoir et de possession, mais aussi au sens de disposition de l'âme, d'état d'âme. Excis peut aussi exprimer chez lui la manière d'être du bien, au-delà de la science et de la vérité. Donc c'est intéressant de voir, vous voyez, le premier moment où le terme qualité apparaît. Et le fondement de la qualité, c'est arrêter. Arrêter traduit par vertu. Mais arrêter dans le sens, justement, dans le sens du cratyle. Alors évidemment, ce sont des étymologies assez particulières de Platon, mais qui sont intéressantes à noter. Surtout, j'allais dire, elles sont d'autant plus intéressantes qu'elles sont particulières. C'est comme quand Heidegger fait l'étymologie, parce qu'alors il se révèle à ce moment-là. Il est évident que toute la philosophie de Platon, qui est la philosophie des formes idéales, des formes en soi, est d'une certaine manière une philosophie de la qualité. Alors ça, c'est aussi très intéressant, puisqu'il reconnaît que c'est lui le premier qui met ce mot. Donc on est en face de la fine pointe de l'intuition de Platon. Et je crois qu'on peut dire ça, que la philosophie de Platon est donc la philosophie de la qualité. C'est ça son intuition première. C'est la qualité, l'au-delà de arrêter la qualité. Et la qualité, c'est donc la forme en soi. Donc toute la philosophie de Platon est avant tout une philosophie de la qualité. Peut-on encore distinguer chez lui l'ousia de la véritable qualité? Pour lui, l'ousia est une forme en soi. Or, la forme en soi, c'est la qualité. Et donc, l'ousia, c'est une qualité. C'est la qualité de l'être. Plus profondément, l'ousia, c'est la qualité de l'intelligibilité de l'être. C'est une philosophie des vertus, Platon, spécialement de la justice, de la prudence, de la sagesse, qui est la seule science parfaite, la science des formes idéales du bien en soi et de la vérité parfaite. Et c'est une philosophie de la lumière visible et intelligible. Je crois qu'on peut, en définitive, dire que toute la philosophie de Platon, c'est une philosophie de la qualité. Comme on pourra dire au terme que toute la philosophie de Heidegger, c'est une philosophie de la qualité. Alors c'est ça, c'est très curieux. Parce que vous faites indépendamment l'un de l'autre, vous voyez que Heidegger, comme Platon, ne dépasse pas le point de vue de la qualité. Il n'atteint pas l'air. Alors vous voyez tout de suite la conclusion de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une philosophie de l'appréhension. L'appréhension saisit la qualité. Qu'est-ce que l'appréhension saisit avant tout? C'est la qualité. C'est l'acuité. Le jugement d'existence n'est pas présent. Une philosophie sans jugement d'existence. La mise entre parenthèses du jugement d'existence aboutit à Platon, aboutit à Heidegger. Et le dépassement de la qualité se fait par le jugement d'existence. Et c'est le jugement d'existence qui seul fait le dépassement de la qualité. Ceci, c'est pour... Vous voyez, ce qui est intéressant dans une topique historique, c'est de pouvoir situer la pénétration d'une intelligence. Bergson disait, dans chaque philosophie, il faut saisir l'intuition dominante du philosophe. Alors, l'intuition dominante du philosophe, je ne dirai pas ça, parce que je crois qu'il faut dépasser l'intuition dominante. Mais pour des philosophies de l'appréhension, c'est très vrai. Et c'est au fond ça que nous voyons dans Platon. Cette philosophie est tout orientée vers la contemplation qui lui donne son sens ultime. Cette contemplation est au fond une contemplation esthétique. Le beau et le bien s'y trouvent intimement liés. Ce qui montre bien que la qualité domine toute cette philosophie si profondément aristocratique. C'est la philosophie de la noblesse. Parce que saint Thomas dira « qualitas, qualitas égale nobilitas ». Et c'est pour saint Thomas « qualitas égale nobilitas ». Alors, donc, on peut dire et on peut saluer Platon, et je crois que Platon, c'est le philosophe de la qualité. Ce serait très intéressant de faire ça. Si parmi vous, il y a un platonicien qui veut s'y jeter à fond, il découvrirait à travers Platon le philosophe de la qualité. Et il montrerait que toute la philosophie de Platon, c'est la qualité. Ça expliquerait des quantités de choses, du reste. Mais ça expliquerait que chaque dialogue de Platon manifeste une qualité particulière. Et ça manifesterait par le fait même la diversité de cette philosophie, puisque le propre de la qualité, c'est impliquer la diversité, ce que nous allons voir tout de suite. Et ça impliquerait qu'il y a une unité sous-jacente, mais qui n'est pas découverte. C'est une philosophie, avant tout et en premier lieu, esthétique, parce que c'est la mise en lumière des qualités. Des qualités intérieures, c'est l'âme. Des qualités visibles, la beauté. La philosophie d'Aristote est la première à relativiser la qualité. C'est la philosophie qui dépasse le point de vue de la qualité pour atteindre l'être. Et donc il va relativiser la qualité. En relativisant la qualité, Aristote va montrer que la philosophie n'est pas premièrement artistique. Et que c'est gênant d'avoir une philosophie esthétique. Parce que ça coiffe les artistes. Les artistes n'aiment pas d'être coiffés. Les artistes aiment d'être libres. Et il faut laisser aux artistes leur liberté. C'est la plus grande chose qu'on peut leur faire. Or, si je distingue philosophie et art, je donne à l'artiste sa liberté. Tandis que si je fais une philosophie artistique, je mets au-dessus de tous les arts la philosophie qui mesure l'art. Et c'est ça qui est de faux. Ça explique, voyez, cette espèce de haine de Platon par rapport à Homère. Pourquoi Platon a-t-il cette haine vis-à-vis d'Homère? C'est parce que Homère le domine. Il ne veut pas être dominé. Homère n'est pas philosophe, donc il ne peut pas être un véritable poète. On ne demande pas à un poète d'être un philosophe. On demande à un poète d'être poète. Et ça, Platon ne peut pas le comprendre. C'est très très curieux, ça. Parce que c'est vrai, il y a là quelque chose de très intéressant à noter. Comment se fait-il qu'un homme aussi intelligent que Platon ait une telle haine de Homère? Ça, vous le voyez, hein, dans la République, vous voyez comment Platon ne peut pas supporter Homère. Il faut inventer un nouvel Homère, il faut un Homère qui dise la vérité. Le poète n'a pas à dire la vérité, il a à dire la splendeur de la forme. Le vraisemblable, mais pas la vérité. Or, Platon reproche à Homère de mettre des scandales chez les dieux, dans l'Olympe. Très, très étonnant, le point de vue de Platon, à ce point de vue-là. C'est très, très intéressant à étudier comment Platon considère Homère comme un rival. Comment Heidegger considère Platon comme un rival. C'est toujours à l'égard de ceux qui sont dans le même genre qu'on a les oppositions les plus farouches. Un petit procédé pour les études critiques des philosophes. Cherchez toujours la tête de Turc d'un philosophe. Et une fois que vous aurez la tête de Turc du philosophe, vous comprenez qu'ils sont tous les deux contraires dans le même genre. Et alors à ce moment-là, vous comprenez beaucoup mieux. Et je crois que c'est plus fort que de chercher l'intuition dominante. C'est toujours à l'égard de l'aspect négatif d'un philosophe vis-à-vis d'un autre philosophe que vous saisissez le mieux ce philosophe. Parce que la négation se dit mieux. Elle se dit de la manière la plus forte qui soit. Un homme en colère qui nie, c'est toujours extraordinairement éloquent. Toujours, l'éloquence vient de la négation, c'est pour ça qu'on met la négation avant tout. Les gens qui sont pour la négation sont des gens éloquents, parce que la négation, ça s'amplifie, ça prend une espèce de... Alors, on découvre là l'antidote. Oui. Et c'est vrai, je crois qu'il y a là quelque chose de très curieux et très intéressant de voir Homère, Platon. Heidegger, Platon. Heidegger est notre Platon moderne. On pourrait peut-être dire que Platon était l'Homère moderne du temps d'Aristote. Ce sont des poètes extraordinaires. C'est vrai, Platon est un poète extraordinaire. Il a une grandeur au point de vue poésie qui est admirable. Et Heidegger a quelque chose du poète. Alors, il y a quelque chose de gênant, vous voyez, c'est d'assimiler vraisemblable et vérité. Alors il faudrait regarder dans Heidegger comment sa conception de la vérité est en réalité la conception du vraisemblable. Parce que je crois que c'est ça. Je crois qu'il y a là quelque chose d'important à saisir pour nous. Donc la philosophie d'Aristote est la première à analyser explicitement le estime la qualité. Qu'est-ce que c'est que la qualité? Si nous voulions traiter cette question de façon exhaustive, c'est toute la philosophie d'Aristote qu'il faudrait examiner dans cette perspective. Ça, je crois que c'est vrai. Parce que l'analogie est pour lui le lieu de l'analogie. Je veux dire, la qualité est pour lui le lieu de la connaissance analogique. Et donc, nous devrions découvrir les divers niveaux de pensée d'Aristote par la manière différente dont il traite la qualité dans ses différents livres. Regardons d'abord les catégories. C'est toujours le premier lieu. Dans les catégories, Aristote exprime ce qu'est la qualité comme l'égétane. Et il énumère ensuite les propriétés. J'appelle qualité poi hôtesse ce en vertu de quoi on est dit tel poion. Vous retrouvez Platon, le lieu entre poi hôtesse et poionti. Et Aristote renvoie à Poionti, ce que Platon avait dit avant, précédemment, que c'est par le Poionti qu'on découvre le Poiotès. Aristote reprend ça. Oui, c'est là où on voit les catégories, c'est vraiment, ce n'est pas la philosophie d'Aristote, c'est tout simplement une réflexion propédeutique. J'appelle qualité, Poiotès, ce en vertu de quoi on dit cette réalité est telle, poion. L'abstrait qualité est manifesté par le concret tel. Ce qui est attribué est manifesté par ce qui exerce cette attribution. N'est-ce pas la manière la plus directe de connaître la qualité, puisqu'on expérimente seulement le concret qualifié, d'où l'on peut induire la forme abstraite, la qualité. Vous ne connaissez la blancheur que par le blanc. Vous connaissez la vertu que par l'homme vertueux. Vous ne connaissez la qualité que par l'homme qualifié. Vous ne pouvez pas connaître autrement. Et donc Aristote renvoie, et ça c'est très très joli, au niveau du legetai. Parce que les catégories sont au niveau du légétaille. Ce qui est dit. Au niveau de ce qui est dit. Vous comprenez, qu'est-ce qui est dit en premier lieu? C'est l'abstrait. L'abstrait, il dit parfaitement. Donc la qualité. Alors vous connaissez cette qualité en regardant ce qui est tel. Le poion. Ce qui est tel. Vous voyez la manière très astucieuse. Aristote ne va pas retarder. Je vais vous dire ce que c'est que la qualité. Pas du tout. Je vais vous dire tout simplement les poions. Tout ce qui est qualifié. À partir de là, on va tomber justement dans la diversité. Aristote ajoute, la qualité est au nombre de ces termes qui se prennent en plusieurs sens. Cette affirmation est elle-même très significative, parce qu'elle montre bien que la qualité implique immédiatement une diversité de significations. La qualité est analogique par elle-même. Si c'est vraiment ce que je connais en premier lieu, c'est ce qui va qualifier mon intelligence. Et mon intelligence qualifiée saisit la diversité des choses. Elle ne peut s'abstraire de cette diversité, car elle est en elle-même quelque chose d'ultime. Je ne peux pas saisir quelque chose de commun à la qualité. La qualité en elle-même ne peut plus être formalisée, mais elle se présente à nous, c'est un fait, sous une très grande diversité. Alors on va tout de suite regarder les diverses significations de la qualité. C'est très très habile ça. C'est très intelligent de faire ça. Il ne fait pas ça pour la substance. Il ne fait pas ça pour la relation. Il fait ça pour la qualité. La qualité tout de suite se diversifie. Première espèce de qualité comprend l'exis et la diathésis. Comprend l'exis. Vous voyez, là encore, très proche de Platon. Et la différence, c'est qu'il le met beaucoup plus, il ordonne ça. Dans le Cratyle, c'est pas ordonné. L'exis et la dia. Voilà la première espèce de qualité. Et on comprend, si justement la vertu implique exis, c'est l'exis qui est la condition sine qua non pour que l'habitus existe. Pour que la vertu existe. L'exis a plus de durée et de stabilité que la disposition. L'exis, l'habitus, comme on traduira en latin, c'est un pli radical qui demeure. Tandis que la disposition, c'est quelque chose qui peut changer. La disposition est d'ordre des choses qui changent. Par exemple, les sciences, les vertus sont des exeis, donc sont des habitus. Elles sont stables, difficiles à mouvoir. Ça, le difficile mobile, c'est tout à fait l'habitus. Hein. C'est ce qui est difficile à mouvoir. C'est quelque chose de très profondément enraciné. Une qualité demande de durer. C'est le propre de la qualité de durer. Et c'est pour ça que la première espèce de qualité, la qualité par excellence, c'est ce qui est inscrit en nous et qui ne disparaît pas facilement. Par contre, la disposition est une qualité qui peut facilement disparaître, facilement être modifiée. Il en est ainsi de la chaleur, du refroidissement et de la santé. Toute la différence. Vous êtes en bonne santé ce matin, mais demain vous pouvez être malade. Diathésis. C'est une disposition. Ce n'est pas un habitus. Tandis que si vous connaissez les mathématiques aujourd'hui, vous les connaîtrez encore demain. Si vous avez un habitus d'art, vous l'aurez encore et vous l'aurez toute votre vie. Tandis que la maladie, la santé, pas sûre. Si l'on peut dire que les excès donc, sont des dispositions, on ne peut pas dire l'inverse. C'est vrai. Les habitus sont des dispositions, mais des dispositions stables. Tandis que vous ne direz jamais que les dispositions sont des habitus instables. Ce serait contradictoire. Posséder des excès, c'est se trouver dans une certaine disposition à leur égard. Donc posséder des habitus, c'est se trouver dans une certaine disposition à leur égard. Tandis qu'avoir des dispositions, ce n'est pas posséder par l'homme-même un habitus correspondant. N'est-ce pas le signe que l'une est parfaite et l'autre imparfaite dans le même ordre? Car si l'une est incluse dans l'autre, la disposition dans l'habitus, l'inverse n'est pas vrai. Donc, entre habitus et disposition, ça c'est capital, hein. Saint Thomas reprendra tout ça, mais sans le dire. Alors, si on veut le comprendre, il faut regarder les catégories d'Aristote. Et bien comprendre le jeu entre habitus, qui chez Saint Thomas deviendra une pièce maîtresse de toute sa théologie morale. On ne comprend rien à la théologie morale de Saint Thomas si on ne comprend pas ce que c'est que l'exis, l'habitus. L'habitus, c'est vraiment quelque chose... très très important. Ah, c'est Aristote qui le premier le met dans cette lumière. L'habitus, c'est ce qui va qualifier le premier poion dit. Le premier poion. un ouvrier qualifié, habitus. Un être non qualifié, c'est pas par où le prendre. C'est une espèce de pli profond, d'orientation profonde. C'est la qualité dominante, première, fondamentale, c'est l'habitus. La disposition est une qualité très inférieure. Saint Thomas dira que la disposition se prend du côté de la matière, alors que l'habitus se prend du côté de la finalité. Et c'est vrai qu'un être finalisé est un être qui a des habitus. Un être non finalisé est un être qui a sans habitus. Vous ne savez pas par où le prendre. Il faut le ramasser à la cuillère. Les dispositions, ça se ramasse à la cuillère. Tandis que les habitudes, pas du tout. Hein. Vous ne pouvez pas les ramasser. C'est très, très, très... C'est quelque chose de très déterminé, l'habitude. Un être qui est qualifié, c'est un être qui a des habitudes. Un autre genre de qualité. Et Aristote dit un autre genre de qualité. Alors, c'est ça qui est très amusant. Il dit les diverses espèces, et ici, il dit un autre genre de qualité. Dans le langage de catégorie, c'est très très joli. Un autre genre, c'est-à-dire une espèce totalement différente. C'est ça que ça veut dire. Une espèce radicalement différente. Alors on dit un autre genre de qualité. Et celui selon lequel on parle de bon lutteur, ou de bon coureur, de bon joueur de foot. Autrement dit, ce genre de qualité concerne l'aptitude ou l'inaptitude naturelle à accomplir facilement quelque chose ou à ne pâtir en rien. C'est l'aptitude naturelle à accomplir facilement quelque chose. Un bon athlète. Chez les Grecs, ça jouait, ça. Un bon athlète. Hein. Il a des aptitudes de souplesse et d'élégance. Par exemple, le dur est tel qu'il possède une aptitude naturelle à ne pas être facilement divisé. Le mou, au contraire, l'est facilement. Il est un peu trop mou, un peu trop dur. On voit très bien. C'est une qualité très particulière. C'est pas exis, c'est pas disposition. Chose spéciale. Une aptitude particulière à la résistance, à la lutte. Alors il est dur. Hein, le granit breton. Il est dur. Tandis que, oui bien, le sable mouvant, c'est pas la même chose. Tout à fait autre chose. Un troisième genre de qualité est formé par les qualités passibles ou affectives. Pathetikai poietetis. Et les passions, les affections, les pathés. Par exemple, la douceur, l'amertume, l'âcreté. Ces qualités sont les plus pures. Que ce soit là des qualités, c'est clair, car les êtres qui les possèdent sont dits de telles qualités en raison de leur présence en eux. C'est vrai, c'est ce qui se voit le plus, c'est ce qui est le plus manifeste, ces qualités sensibles, affectives. Les passions. Quand vous êtes passionné, ça se voit tout de suite. Quand on ne l'est pas, ça se voit aussi. Alors, ça se voit tout de suite. Ce sont les qualités qu'on saisit tout de suite, ça. Les pathetikai poietetes. Ces qualités sont dites passibles, pathetikai, parce qu'elles sont capables de produire dans les sensations des modifications. Autrement dit, elles spécifient immédiatement les sensations. La douceur est ce qui qualifie le goût, la chaleur, le toucher, tandis que la pâleur, la rougeur sont dites qualités passives ou affectives du fait qu'elles sont le résultat, l'effet d'une modification provenant d'une aptitude naturelle appelée des passions. Et non des qualités passives ou affectives. La durée et la stabilité distinguent les qualités affectives des affections, comme elles distinguent l'exis, l'habitus, des dispositions. La notion de temps et de durée ne sont donc pas indifférentes à la structure de la qualité. Alors, quatrième genre, dernier genre, je vois ça tout de suite pour ne pas y revenir. Quatrième genre de qualité, la figura. Schéma. Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le Fils.